Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindali Kabbalah. Des installations du centre d'isolement destinées au traitement des maladies d'Ebola ont été incendiées à l'hôpital général de référence de Rwampara à Ituri. Les auteurs de cet incendie sont des manifestants en colère. Les détails dans un instant. Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restriction de l'espace politique en RDC. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, son directeur exécutif a attiré l'attention du pouvoir en place sur la nécessité de ne pas restreindre la liberté d'expression ni les manifestations publiques pacifiques. L'invité de ce journal est le député national Jethro Muyombi, élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il revient sur la question d'actualité qu'il a adressée à la SNEL concernant les coupures récurrentes et les déficits de production énergétique en République démocratique du Congo. Mais sachez d'abord que le gouverneur du Haut-Katanga a démissionné hier jeudi. Dans une lettre adressée au président de la République ce même jeudi, Jacques Kiabula-Katwe annonce donc sa démission de ses fonctions de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Au cours de ces derniers mois, ma présence prolongée à Kinshasa requise pour des raisons professionnelles et institutionnelles m'a éloigné de ma province dans un contexte particulièrement sensible sur le plan sécuritaire, explique Jacques Kiabula. Il dit avoir tiré toutes les conséquences politiques et administratives de cette situation, étant soucieux de préserver la sérénité des institutions ainsi que le bon fonctionnement de l'administration provinciale. Dans sa correspondance, le gouverneur démissionnaire réitère toutefois sa loyauté envers les chefs de l'État et se déclare profondément attaché à la vision de stabilité, de paix et de développement incarné par Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. Place à Ebola avec ce triste incident. Hier jeudi, des installations d'un centre d'isolement destiné au traitement des malades ont été incendiées à l'hôpital général de référence de Rwampara, en périphérie sud-ouest de Bunia, en Ituri. Les auteurs de cet acte sont des manifestants en colère. Selon des sources médicales, ces jeunes, appuyés par des membres d'une famille dont un enfant serait décédé d'Ebola, ont pris d'assaut la structure sanitaire pour tenter de récupérer le corps de la victime, contestant les circonstances de ses décès. La police est intervenue avec des tirs de sommation pour maîtriser la situation. Reportage signé Martial Kizabiamongo.
Des tirs de sommation, des actes de vandalisme et des incendies, tel est le décor observé ce jeudi à la mi-journée à l'hôpital général de référence des Rwampara, où étaient installées des dentes du centre d'isolement destiné à la prise en charge des cas suspects et confirmés d'Ebola. Selon plusieurs témoins, une foule hostile, doutant de l'existence même de cette maladie, a contesté la circonstance du décès d'un de leurs et a voulu récupérer le corps par la force. Les manifestants ont réussi à incendier des tentes d'isolement. Un corps qui s'y trouvait a été calciné dans les flammes. Lik Malembe, acteur sociopolitique local et témoin de l'événement, attribue cette situation à une mauvaise communication des autorités sanitaires sur les mesures de prévention et de riposte contre Ebola.
La population n'est pas suffisamment sensibilisée pour une certaine population. Ebola, ça n'existe pas, c'est faux. Donner des moyens à des leaders d'opinion qui peuvent parler à la population et on va les écouter.
Certaines sources indiquent qu'à la suite de ces tensions, plusieurs cas suspects et malades d'Ebola qui étaient internés dans ces centres d'isolement ont pris la fuite. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Encore un mot sur Ebola. À Butembo, au Nord Kivu, plusieurs écoles et structures sanitaires renforcent à nouveau les mesures de prévention contre la maladie. Lavage systématique des mains, dispositifs sanitaires et prise de température refont progressivement surface après la résurgence de l'épidémie déclarée il y a une semaine dans la province voisine de l'Ituri. Le point avec Martial Papimukeba.
À l'entrée de plusieurs écoles de Butembo, les dispositifs de lavage des mains sont de retour. Des lavabos ont été installés devant les salles de classe en fait de renforcer la prévention contre Ebola. Élèves et enseignants se lavent régulièrement les mains au savon à chaque entrée et sortie des classes. Des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques de prévention sont également organisées dans plusieurs établissements scolaires. Selon certains responsables d'école, ces mesures visent à protéger les élèves ainsi que les personnels enseignants contre une éventuelle propagation du virus. Quelques établissements indiquent avoir utilisé une partie de leurs frais de fonctionnement pour l'achat des kits de lavage des mains. Même vigilance dans plusieurs structures sanitaires de la ville. Dans certains centres de santé, visiteurs et patients sont soumis au respect strict des mesures barrières, notamment les lavages obligatoires des mains et la prise systématique de la température. Ces dispositions interviennent alors que la ville de Butembo a déjà enregistré un cas confirmé d'Ebola depuis la déclaration officielle de l'épidémie dans la province voisine de l'Ituri samedi dernier. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Je le disais en titre, l'ONG internationale Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restrictions de l'espace politique en RDC. Son directeur exécutif, Philippe Bolopion, en visite à Kinshasa, s'est exprimé hier jeudi lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale. Selon lui, depuis l'annonce de la possibilité d'une réforme constitutionnelle, une vive tension s'installe dans la vie politique, rappelant l'atmosphère de la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Human Rights Watch attire l'attention du pouvoir sur la nécessité de ne pas restreindre la liberté d'expression ni les manifestations publiques pacifiques. On écoute Philippe Bolopion au micro d'Askin Zigbiatayoro.
On pense qu'il y a vraiment un risque dangereux. Ça nous rappelle d'une certaine manière la situation vers la fin du mandat du président Kabila, quand il y avait vraiment un effort pour essayer de faire taire l'opposition. Et pour nous, c'est vraiment dangereux ce moment dans la vie politique congolaise où il y a vraiment un risque de recul, de marche arrière sur l'espace démocratique dans ce pays. Un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, ce sont les disparitions forcées ou les arrestations arbitraires. Notre espoir, c'est vraiment que cet espace civique, cet espace démocratique ne rétrécisse pas plus, mais qu'au contraire, les autorités prennent des mesures pour s'assurer que les gens puissent manifester pacifiquement quand ils en ont le désir, puissent s'exprimer comme ils l'entendent dans les médias indépendants, puissent exprimer leurs opinions politiques, y compris sur l'opportunité ou non d'un changement de la Constitution, et de voir ce climat de peur, c'est assez saisissant pour nous. Human Rights Watch a longtemps travaillé en République démocratique du Congo. Nous connaissons la vigueur du débat civique dans ce pays, et pour nous, ce serait une grande perte de voir les autorités essayer de restreindre cette liberté d'expression.
Au cours de sa conférence de presse, Philippe Bolopion dit avoir eu un échange franc avec les autorités congolaises et différentes organisations de la société civile sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et de la vie politique actuelle à Kinshasa. Sur le terrain des hostilités justement, les combats se sont poursuivis hier jeudi entre la rébellion de l'FCM-23 et les Wazalendo alliés au FRDC dans les territoires de Masisi au Nord Kivu. C'est le quatrième jour consécutif d'affrontements dans cette zone. Selon plusieurs sources locales, les combats se concentrent actuellement dans les villages de Machaki et de Kaseni, tous situés dans les secteurs d'Osso Banyongo. Les détails avec Jean-Marie Kanaimba.
Depuis tout ce jeudi matin, des dénotations d'armes lourdes et légères sont entendues dans ces zones au sud-ouest du territoire de Masisi. Ces combats interviennent après des violents affrontements signalés jusqu'en soirée de mercredi. À l'issue de ces combats, les Wazalendo auraient repris le contrôle des villages Luki, Katobotobo et Kazinga dans le groupement Nyamaboku 1. Rappelons que depuis lundi, les tenses combats opposent les deux camps dans cette partie du territoire. Jusqu'à mercredi 20 mai, la coalition Wazalendo avait déjà pris le contrôle de plusieurs localités du secteur de Katoï, ainsi que de la quasi-totalité du groupement Nyamaboko 1. Cependant, la situation reste confuse et très volatile dans ces entités, aujourd'hui largement vidées de leur population civile, qui ont fui les violences.
La situation des déplacés internes en Ituri et dans les Tanganyika était au cœur des échanges hier jeudi à Kinshasa. Autorités nationales et provinciales, notamment les ministres de l'Intérieur, du Plan et des Affaires sociales, les gouverneurs ainsi que des partenaires internationaux se sont réunis autour de cette problématique. Objectif, trouver des solutions durables pour ces déplacés et élaborer une feuille de route en vue d'une aide humanitaire mieux coordonnée. Selon les chiffres présentés en visioconférence par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba et le lieutenant général John Luboya Nkashama, on compte plus de 390 000 déplacés dans les Tanganyika et 926 000 en Ituri depuis janvier. Cet atelier stratégique est organisé par le groupe de concertation Nexus Humanitaire Développement Pays. Reportage signé John Chibwabwa et Esther Mambote.
La mobilisation des ressources et l'harmonisation des stratégies figurent parmi les résultats attendus au cours de cette activité. Dans la salle, le gouverneur de Tanganyika, Christian Kitungwa, a expliqué la situation des déplacés dans sa province.
La province du Tanganyika compte plus de 391 000 personnes déplacées internes fuyant les hostilités dans les deux provinces voisines.
Par visioconférence, le gouverneur de l'Ituri parle de plus de 9 000 déplacés dans sa province. Le lieutenant général John Luboya.
Notre province fait face à des crises répétitives ayant pour conséquence de graves violations de droits humains, la destruction des infrastructures ainsi que les déplacements des populations. Actuellement, la province compte plus de 926 000 personnes déplacées internes.
Autre intervenant, Kalinga Kitsuka et Jeanne plaide pour des solutions durables afin d'éviter une aide répétitive.
Le modèle actuel a atteint ses limites parce que on était obligé de donner une tente, l'eau en bouteille, un sac de riz, ce type, ce qui faisait que les coûts étaient toujours élevés et les opérations étaient répétitives. Une solution durable, c'est une aide qui tient dans les temps.
L'atelier se clôture ce vendredi 22 mai.
Au chapitre économique, la Banque centrale du Congo renforce son contrôle sur les marchés d'échange. Hier jeudi à Kinshasa, elle a lancé sa nouvelle plateforme baptisée Bloomberg FX Go. Cet outil informatique lui permettra de mieux maîtriser les opérations d'échange, mais aussi les instruments du marché monétaire en RDC. Le gouverneur de la BCC, André Wameso, assure que cette réforme profitera à l'ensemble des opérateurs du circuit bancaire à travers le pays. Explication avec Blaise Ndongala Mayanda.
Lors du lancement de cette plateforme à la galerie La Fontaine dans la commune de la Gombe, les quatre agents de la Banque centrale du Congo ont exprimé leur satisfaction. Cet outil digital aide la BCC à consolider les prix provenant de plusieurs fournisseurs de liquidités et facilite l'accès à différents workflows des négociations. Cette nouvelle approche offre également une meilleure visibilité à tous les intervenants du marché et permet la diffusion des données relatives aux transactions. Pour les gouverneurs de la Banque centrale du Congo, le lancement de cette plateforme marque la naissance d'une nouvelle architecture financière en RDC. André Wameso.
La plateforme BIMAC constitue un outil stratégique permettant de déterminer le cours indicatif sur la base des transactions interbancaires effectivement réalisées. Nous donc les moyennes incluant des opérations avec les bureaux de change ou la clientèle.
La plateforme FX Go regroupe des teneurs des marchés dans plus de 40 pays représentant des centaines d'institutions financières et des milliers de bureaux de trading. Cela permet d'obtenir des cotations compétitives, y compris sur les paires de devises des marchés émergents.
Politique à présent, les réactions se poursuivent après la sortie officielle de la coalition Article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Le mouvement Sauvons la RDC, formation de l'ancien président Joseph Kabila, salue cette initiative. Dans un communiqué publié mercredi, il estime que la création de la C64, qui rassemble les partis d'opposition, organisations et forces sociales autour de la défense du cadre constitutionnel, rejoint une position qu'il défend depuis près d'une année. Le mouvement exhorte toutefois la coalition à aller plus loin, appelant à combattre ce qu'il qualifie de tyrannie. Les détails dans cet élément de Grâce Hamzati rendu par Askin Zigbia.
Selon le mouvement Sauvons la RDC, l'application de l'article 64 de la Constitution est devenue, dans le contexte actuel de la gouvernance, une exigence existentielle pour la nation et l'ultime voie de sauvegarde de la République. Tout en saluant la création de la coalition C64, il appelle toutefois ses membres à aller au-delà de la seule défense de l'ordre constitutionnel. Pour cette organisation, s'opposer aux velléités de modification de la Constitution à une éventuelle prolongation du mandat actuel au-delà de 2028 ou encore à l'hypothèse d'un troisième mandat consécutif constitue un combat important mais insuffisant. Le mouvement estime en effet que les enjeux dépassent la seule question constitutionnelle et traduisent les problèmes plus profonds liés à la gouvernance, à la mauvaise gestion de l'État et à des pratiques qualifiées de dérives autoritaires. Ainsi, le mouvement Sauvons la RDC réitère son appel à une mobilisation plus large du peuple congolais. Cette lutte, selon le mouvement, doit viser non seulement la défense de la Constitution, mais aussi la fin de toute forme de dérive autoritaire et de tentative de perpétuation du pouvoir. Pour lui, il s'agit d'une véritable urgence nationale, condition essentielle à la paix, à la dignité et à la prospérité de la République.
Je vous signale que le président du Parti politique démocratie chrétienne s'oppose aussi au changement ou encore à la révision de la Constitution. Eugène Diomi Ndongala l'a fait savoir hier jeudi au cours d'un échange avec la presse ici à Kinshasa. Nous y reviendrons.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, Israël a annoncé jeudi 21 mai 2026 avoir expulsé tous les militants étrangers de la flottille pour Gaza, capturés en mer au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est le député national Jethro Muyombi, élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il revient sur la question d'actualité qu'il a adressée à la Société nationale d'électricité, la SNEL, concernant les coupures récurrentes et les déficits des productions énergétiques en République démocratique du Congo. Jethro Muyombi s'entretient avec Alain Irung.
Monsieur le député Jethro Muyombi, bonjour.
Bonjour, monsieur Rong.
Quel constat vous a poussé à adresser cette question d'actualité à la SNEL sur la problématique de l'électricité en RDC?
Le constat est simple. Aujourd'hui, la crise de l'énergie est devenue une crise nationale qui touche directement la vie quotidienne de nos populations, l'économie nationale ainsi que le fonctionnement des institutions publiques. Donc à Kinshasa, comme dans plusieurs provinces, notamment le Haut-Katanga, le Nord Kivu, le Congo central ou encore le Lualaba, les délestages sont devenus récurrents et parfois insupportables même. Le ménage, les hôpitaux, les écoles, les petites entreprises et même les industries subissent de lourdes conséquences. Ça, c'est une réalité que personne n'ignore dans notre pays. Et c'est tout ça qui nous a poussé à initier cette question d'actualité dans le but de rechercher les voies et moyens afin d'y pallier.
Après les explications du DG de la SNEL, estimez-vous que les causes des délestages sont uniquement techniques et légales ou existe-t-il aussi un problème de gouvernance dans le secteur de l'électricité, par exemple?
D'abord, il faut dire que j'ai noté que les DG a une volonté de pouvoir bien faire les choses, mais il y a des causes endogènes et exogènes. Il faut se concentrer sur toutes ces causes-là pour essayer de chercher une après l'autre des solutions idoines. Alors, je pense aussi que toutes ces questions-là sont des questions qui sont possibles à rencontrer et résoudre cette question de l'électricité.
La SNEL affirme que certaines dispositions de la loi sur l'électricité freine les investissements privés dans la production énergétique. Faut-il aujourd'hui revoir cette loi pour vous en tant que législateur?
Toute loi doit pouvoir être évaluée à l'épreuve de la réalité. Si certaines dispositions de la loi sur l'énergie, sur l'électricité constituent effectivement un frein aux investissements, notamment dans la production, les transports ou même la distribution de l'énergie, alors il ne faut pas exclure l'idée d'une révision ciblée responsable. Donc la RDC possède un potentiel énergétique immense et parmi les plus importants du monde d'ailleurs. Mais ce potentiel reste largement sous exploiter. Nous devons créer un cadre juridique qui rassure les investisseurs tout en protégeant les intérêts stratégiques de l'État et des populations congolaises.
Vous êtes élu du Haut-Katanga, de la ville de Lubumbashi. Il y a des grandes entreprises là-bas, mais entre-temps, il y a certains coins du pays comme le territoire de Sakanya et d'autres qui sont alimentés par le courant venu de la Zambie, tantôt menacés de coupures. Est-ce que vous trouvez cette situation normale?
La situation n'est pas normale, je peux tout simplement dire. D'ailleurs, comme j'étais en train de répondre à la question précédente, il faut aussi ajouter que la révision de la loi ne suffira pas à elle seule. Il faut également garantir la stabilité institutionnelle, la sécurité juridique des investisseurs et une gouvernance crédible du secteur énergétique. Pour aussi revenir maintenant à votre question que vous venez de poser, si nous essayons de nous mettre ensemble sans aller à gauche ou à droite ou chercher de solutions à l'extérieur, c'est là que nous aurons des réponses ou des solutions exactes qu'il faut pour pallier à toutes ces questions. Donc la situation n'est pas acceptable. C'est ça même qui nous pousse à poser des questions dans ce sens-là et à rechercher de solutions.
Si dans les grandes villes c'est déjà difficile, a fortiori dans le Congo profond comme on le dit, vous veniez récemment des vacances parlementaires, ça doit être très difficile pour les populations là-bas.
Vous savez que dans notre pays, malgré toutes les potentialités que nous avons, il y a même des coins où ils n'ont jamais vu l'électricité. Ils ne connaissent même pas c'est quoi les courants. Donc, si d'ailleurs dans des grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, la souffrance est immense, et alors que dire des autres coins? Et aussi de ces coins qui n'ont jamais vu les courants. Quand est-ce qu'ils verront les courants si on ne se met pas en œuvre? C'est-à-dire, il est important, il est temps que nous puissions nous mettre tous ensemble autour de la table pour rechercher des voies et moyens et que nous puissions exploiter cette potentialité de notre pays et nous puissions nous mettre au moins sur le chemin afin de trouver une solution.
Monsieur le député, Muyombi, je vous remercie.
C'était donc notre invité, le député national Jethro Muyombi, qui s'entretenait avec Alain Hirung. Voilà qui met fin à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Lievin Mbuinga-Vubu et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.